la Juive Alliance avec l'évêque Alexandre Mendes.
Transférez votre foi. Donc on a le volume 1, le volume 2, le volume 3. Aujourd'hui, on est au volume 4. Donc nous allons parler du volume 4, tout simplement, ce matin. Nous allons lire Deutéronome 6, versets 6 à 7. Deutéronome 6, versets 6 à 7. Oui. Que dit la Bible? Deutéronome 6, versets 6 à 7. On écoute la parole du Seigneur.
Et ces commandements,
oui,
que je te donne aujourd'hui,
mm-hmm,
seront dans ton cœur.
Dans ton cœur.
Tu les inculqueras à tes enfants.
Tu les inculqueras à tes enfants.
Et tu en parleras.
Et tu en parleras.
Quand tu seras dans ta maison.
Quand tu seras dans ta maison.
Quand tu iras en voyage.
Oui.
Quand tu te coucheras.
Oui.
Et quand tu te lèveras.
Merci. C'est clair. Il dit les commandements que je te prescris aujourd'hui. Tu dois et tu as l'obligation de les transmettre d'abord à tes enfants, dans ta maison, quand tu iras en voyage, c'est-à-dire partout, dormir, se lever, tu dois avoir une seule obsession, veiller à ce que Dieu t'a confié ne reste pas avec toi, mais soit véhiculé. Parce que ce qu'un homme reçoit qui ne le transmet pas devient illégitime dans sa vie. Donc, c'est une responsabilité que l'Église de Jésus-Christ a aujourd'hui, de comprendre que nous ne pouvons pas rester là et voir nos enfants aller à la perdition. Parce que le sous-thème de mon message, c'est les vautours sont de retour. Alléluia. Gloire à Dieu. Nos maisons sont infestées de toutes sortes de choses. Et si nous ne prenons pas conscience que Dieu s'attend à ce que nous soyons le relais de ce qu'il a fait, alors Dieu s'arrêtera avec nous. Et bien sûr, quand Dieu s'arrête avec un homme, il jugera l'homme pour la responsabilité qu'il a sur la génération qui suit. Il dit, je t'ai établi sentinelle. Si tu n'avertis pas que l'épée vient, non seulement je vais frapper la personne, mais je te redemanderai son sang. Donc nous avons la responsabilité et pour moi c'est très important comme sujet parce que nous sommes dans des temps difficiles. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Gloire à Dieu. Et ce matin, nous allons poursuivre pour voir pourquoi le transfert de la foi ne se fait pas souvent de façon effective d'une génération A à une génération B. Nous allons voir un certain nombre d'éléments importants qui font que nous n'arrivons pas souvent à transmettre avec efficacité nos valeurs. Vous savez, la Bible dit quelque chose de très important que vous savez déjà, c'est qu'un homme ne peut donner que ce qu'il a. C'est-à-dire, tu ne peux pas aller au-delà de ta capacité. Je suis désolé, mais c'est ce que tu as que tu donnes. Donc, si tu es amer, tu seras amer avec tout le monde. Quand tu vois quelqu'un qui est amer avec les gens, faut pas trop l'envier, il est comme ça. C'est ce qu'il a. Quand quelqu'un est dans la joie, il partage la joie. Quand quelqu'un est heureux, il partage le bonheur. Je vous l'assure. Voilà pourquoi il est important d'être la chose avant de manifester la chose. Dieu s'attend à ce que nous soyons ce que nous voulons voir autour de nous. C'est pourquoi j'ai dit, la fidélité est d'abord une affaire de nature avant d'être une affaire d'acte. Alléluia. Gloire à Dieu. Malheureusement, les pères qui ont la responsabilité de faire le transfert de foi ont eux-mêmes un problème. Donc, si le problème est au niveau de ceux qui doivent faire le transfert, alors le transfert ne se fait pas souvent ou toujours comme ça doit se faire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen?
Amen.
Gloire à Dieu. Un homme ne peut donner que ce qu'il a. Donc si cela est une vérité donc indiscutable, alors la confusion que nous observons aujourd'hui dans l'église et dans le corps en général vient simplement du fait que les personnes qui ont la responsabilité de faire le transfert, eux-mêmes n'ont même pas de repère. Mais quelqu'un qui n'a pas de repère, il va donner repère à qui? Dis amen. Alléluia. Donc quelqu'un donc qui n'a pas de repère ou qui a des repères qui ne sont pas clairs, ne peut pas transmettre avec efficacité quelque chose que lui-même ne voit pas bien. C'est-à-dire, c'est à la mesure de ce que tu vois que tu transmets à tes enfants. Si toi-même tu vois flou, c'est le flou que tu vas leur transmettre. Mais nous savons également que pour que les repères d'un homme deviennent clairs ou précis, les repères prennent toujours appui sur les valeurs. Tout le monde dit avec moi valeur. Maintenant, si les pères qui ont la charge de transmettre à leurs enfants leur foi manquent de valeur, le fait qu'eux-mêmes ils manquent de valeur, naturellement leurs repères sont flous. Parce que les repères d'un homme prennent appui toujours sur sa valeur. Maintenant, si les repères sont flous, naturellement les enfants seront dans le flou. Donc s'il y a un travail à faire d'abord, c'est au niveau de ceux qui ont la responsabilité de faire le transfert. Voilà pourquoi nous devons vous enseigner la parole, nous devons vous dire ce qui est droit et ce qui n'est pas droit. Pour que, ayant le bon dépôt, que vous puissiez transmettre également le bon dépôt. Quelqu'un peut dire amen avec conviction, s'il te plaît. Alléluia. Maintenant, quand on prend le mot valeur, qu'est-ce que c'est que avoir des valeurs? Le dictionnaire nous dit un certain nombre de choses. Il y a beaucoup de choses, mais j'ai retenu juste deux éléments que je vais te transmettre. Quand on parle de valeur, on parle d'idéal à atteindre. Idéal, j'ai un idéal à atteindre. Deux, une cause à défendre, une référence. Ça, c'est ce que le dictionnaire dit. Mais quelle définition nous pouvons en tirer de quand on parle de valeur sur le plan spirituel? La valeur ou les valeurs d'un homme est ce en quoi il croit, ce en quoi il se consacre et les éléments qui dirigent sa vie. Ce sont tes valeurs. Tes valeurs, c'est ce en quoi tu crois. Ce que tu exaltes, ce qui dirige ta vie, c'est ça tes valeurs. Donc chaque enfant de Dieu a des valeurs. Donc vous voyez que le combat aujourd'hui pour la fin de ces temps, c'est qui va communiquer le plus de valeurs. Dieu un côté, Satan un côté. Ce en quoi vous croyez établit vos valeurs. Ce en quoi vous vous consacrez établit vos valeurs. Ce qui dirige votre vie établit vos valeurs. Amen. Maintenant, j'ai dit tout à l'heure que ce sont les valeurs d'un homme qui établit les repères qu'il a dans la vie. Parce que regardez aujourd'hui, moi mes repères sont prennent appui sur mes valeurs. Mes repères prennent appui sur mes valeurs. Quand je pose des actes, je dis je vais faire un investissement, tout prend appui sur les valeurs que j'ai. C'est pourquoi les valeurs sont importantes. Donc les valeurs établissent les repères. Mais les repères font quelque chose, c'est que les repères te donnent également d'avoir une force de caractère. Mais maintenant, le problème qui est observé, c'est que nous voyons dans cette génération, les personnes qui ont la responsabilité de faire le transfert, ils n'arrivent pas. Parce que non seulement, eux-mêmes ont un problème de valeur. Deuxième chose, les valeurs rendent leurs repères flous. Donc, en termes de force de caractère, ils n'en ont plus. Donc, face au nouveau fléau ou au fléau des temps modernes, ils n'arrivent pas à dire non là où il faut dire non et oui là où il faut dire oui. Donc, tu vas voir des parents ou des gens dans leur propre maison, leurs enfants regardent des chaînes de télévision et c'est des chaînes qui enseignent du poison. Mais ils n'ont pas la capacité de dire non quand il faut dire non et oui quand il faut dire oui, parce que dès que l'enfant fait des grimaces, laissez-le, c'est la modernité, ça là c'est pas le diable, ça tue pas. Face au fléau des temps modernes, on trouve rarement des gens qui se tiennent pour dire je ne suis pas d'accord, alors que tout le monde dit on est d'accord. Par exemple, il est difficile aujourd'hui d'être à Paris face à cette prise de conscience collective que l'homosexualité n'est pas un mal. Et des prêtres, des pasteurs commencent maintenant à célébrer des mariages alors que c'est écrit parce que leur conscience tuée, il est difficile de se tenir si tu n'as pas réellement des valeurs qui te communiquent des repères qui te donnent une force de caractère de te tenir contre tout le monde et dire, ça là, ce n'est pas Dieu, c'est compliqué. Parce qu'à un moment donné, tu ne pourras pas le faire. Tu vas dire, bon, laissez chacun vivre sa vie. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à faire face à cette adversité des temps modernes. Et je vous assure, au fur et à mesure que nous allons avancer vers la fin des temps, les choses deviendront difficiles. Mais Dieu a été très clair, je cherche des hommes. Des hommes qui, dans ce flou, dans ce brouillard où il n'y a pas d'espoir, vont se tenir pour dire, nous ne lâcherons pas prise. Ce sont ces hommes-là qui achèveront leur course. Et je veux te défier ce matin que, frère, les hommes peuvent faire ce qu'ils veulent, peuvent donner les discours qu'ils veulent. Dieu n'a pas changé et Dieu ne changera pas. Il est un Dieu de génération. Alléluia. Mais il reste le même. Il a dit à Josué, j'ai été avec ton père Abraham, je serai avec toi. Ça veut dire, les styles peuvent changer en fonction des générations, mais Dieu ne change pas. Nous n'avons pas le droit de donner un autre évangile que ce que nos pères ont enseigné, ce que les T.L. Osborne ont enseigné, ce que les Oral Roberts ont enseigné, ce que tous ces gens ont enseigné. Nous n'avons pas le droit, la Bible dit, les bornes qu'ont posées les pères, nous n'avons pas le droit de les déplacer. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est la garantie de ta survie dans ces temps de la fin. Combien de personnes qui sont exposées à de tels enseignements? Il n'y en a pas beaucoup. Mais regardez l'église d'aujourd'hui là. Dans 50 ans, quel genre de chrétien nous allons bâtir? Avec ce style, cette façon de faire, nous acceptons tout, on consent tout, on ne se bat plus contre rien. Regardez, qu'est-ce que nous offrons à cette génération? Nous sommes ce que nous sommes parce que nos pères nous ont bâtis. Parce que quand on parle de pères, les pères dans la foi, il y en a beaucoup. Alléluia! Ils ont été un modèle pour nous. Si nous laissons cette génération-là mourir, Dieu va nous demander des comptes. Je vous assure. C'est trop sérieux ce que je vous dis. C'est un cri de cœur de Dieu. Les temps sont difficiles. Mais sans force de caractère, tu ne peux pas te tenir là où tout le monde dit c'est bleu et puis dit non, c'est blanc. Et tu tiens. Pourquoi? Tu as des valeurs. J'ai dit, Dieu cherche des hommes qui, dans la foule, ne se perdent pas ou ne perdent pas leur identité.
Amen.
Mais qui gardent leur identité, même quand tout le monde a changé d'identité.
Amen.
Regardez aujourd'hui, il n'y a plus de valeur. Ils n'ont plus de valeur. Et là où il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de repère. Et là où il n'y a pas de repère, il n'y a pas de force de caractère. Et il n'y a pas de force de caractère, on accepte tout. On coopère avec tout. On se dit, ce n'est pas grave, laissez-les faire. Mais ce qu'un homme accepte, il consent. On a fini par accepter trop de choses qui en réalité ne sont pas de Dieu. Mais pour ne pas choquer les gens, sous prétexte de la modernité, de le vivre ensemble, on dit, laissez les gens vivre leur vie. C'est quoi? C'est Dieu seul qui va juger au ciel. Mais tout ça, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Frère, Jésus a dit, je bâtirai mon église. Ça veut dire, dans ce flou, il va toujours avoir des gens qui vont garder la conscience pure. Et je veux t'engager pour être parmi ces gens-là. Mais tu sais, tu ne seras jamais ce que tu ne décides pas d'être. Voilà pourquoi, à la base, ne dis pas, c'est difficile, tout le monde est comme ça. Tout le monde n'est pas comme ça. Tu peux décider d'être différent et tu seras différent. Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux dire amen? Tu peux décider ce matin et tu le seras. Dieu te bénira, t'accordera la grâce d'être un homme différent. Pour l'espoir de l'humanité. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils. Le monde attend qui? La révélation des fils. Ils nous attendent pourquoi? La Bible dit le monde a été soumis à la vanité. Elle cherche, elle attend les fils pour leur délivrance. Mais c'est nous. Ce monde-là nous attend. Si nous aussi on faillit, Là, le monde est complètement perdu. Alléluia. Force de caractère. Le problème, c'est ça. Là où il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de repère. Là où il n'y a pas de repère, il n'y a pas de force de caractère. Nous sommes arrivés dans un monde où Satan tente et fait tout pour que les gens oublient Dieu. Nous avons la responsabilité de protéger Dieu, de protéger ce que Jésus-Christ nous a légué avant d'aller au ciel. Il a dit, allez. C'était son dernier message. Faites de toutes les nations des disciples. Transmettez-leur. Je vous dis, c'est une guerre sans merci. Et nous, nous sommes dedans. Demandez aux gens qui vivent en Occident, on vous dit, tout le temps à retirer les gens de Dieu. Au profit du Dieu de ce siècle. Du Dieu de ce siècle. Nous devons protéger Dieu. Qu'est-ce que c'est que la force de caractère? C'est la capacité qu'a un homme de tenir sur ce qu'il croit et de le véhiculer. La capacité qu'a un homme de tenir sur ce qu'il croit contre vents et marées et de le faire passer. Ça, c'est de la force de caractère. Quand tu vois quelqu'un, on dit, cette dame, elle est due, elle a du caractère. C'est parce qu'elle a des convictions. Tu n'as pas de valeur, tu n'auras aucun caractère. On te pousse ici, tu vas. On vient ici, tu vas. On dit bleu, tu es bleu. On dit noir, tu es noir. On dit vert, tu es vert. Je bénis Dieu pour vous, parce que vous êtes des hommes et des femmes de caractère. Dites amen encore. Donc, la leçon que tu retiennes ici, les valeurs d'un homme détermine sa force de caractère. Et c'est un nombre d'exemples de valeurs que je veux que tu vois, par exemple. Numéro 1, le travail. C'est une valeur. La valeur travail aujourd'hui tend à disparaître au profit de quoi? La tricherie, de la paresse. Les gens aiment les raccourcis. Mais là où il n'y a pas de travail, quand Dieu a mis Adam dans le jardin, il a dit quoi? Numéro 1, il dit Adam, garde le jardin, cultive le jardin. Donc Adam était cultivateur. Donc le travail n'est pas une malédiction. Sinon Dieu n'aurait pas donné comme premier boulot à Adam de cultiver. Donc le travail est une valeur. Mais aujourd'hui, nos églises, pourquoi les chrétiens ou l'église en général manque d'influence ou n'a pas vraiment d'impact? C'est parce que cette église-là a juste la bouche qui crie. Les gens viennent, ils crient, crient, parlent en langue, ils prophétisent. Mais en réalité, quand on les presse, il n'y a rien qui sort.
Amen.
Parce que ce monde-là, ce n'est pas avec vos cris là vous allez les sauver. Attends, dis-moi, je disais au premier culte, regardez, ils ont l'argent. Ils ont les marabouts et les sorciers. Donc ça veut dire qu'ils ont les signes et les miracles. Ils ont même des prophéties, des devins. Ils ont tout ce qu'ils veulent. Tu leur proposes quoi? Venez, grand miracle, grand croisade de miracles et de guérisons. C'est toujours les mêmes choses. Le gars, il vient, il est son pied, il fait, puis il retourne son pied. C'est deux personnes qui ont dit, j'ai eu la chaleur ici. Chut. Voilà tous les seuls témoins qu'on a dans nos trucs. On dit aux autres, en allant, Dieu va vous guérir. Puis on retourne les chaises ouvrantes. En allant, Dieu va vous guérir. On fait veiller de prix, on dit, dernier veillée de miracle de Jésus. Cette veillée-là, tu viens ici, ta vie change. Les gens viennent toujours. Tu es allé dans plein de veillées, tu sais. Ta vie a changé. Parce qu'en réalité, vous savez, à un moment donné, on prend conscience. Moi, je vous dis, si Dieu vous a appelé, à un moment donné, là, on peut faire des bêtises, mais à un moment donné, on prend conscience. Ces gens-là, pour sauver ce monde-là, les gars, vous voyez dehors, dimanche, ils sont en train de faire jogging, footing, ils sont sur leur chantier, leur vie, c'est ça, ils ont construit une grosse villa, ils ont plein de sous. Mais regardez l'église aujourd'hui. On veut aller au palais des congrès de l'hôtel Ivoire pour faire programme. On dit, une journée de programme au palais des congrès de l'hôtel Ivoire, c'est 15 millions de francs CFA cash. Donc, 3 jours, ça fait combien? 45 millions. Maintenant, on rase les murs. On va voir les païens. Eh, pitié de nous, on n'a personne. On souffre. Diminué. On est juste une église. Mais c'est quel type d'église, ça? Quel impact? Mais le vrai problème, c'est parce que si, regarde autant, regarde nombreux que vous êtes. Il y en a qui sont déjà partis à la maison. Si vous, là, Vous comprenez ce que nous sommes en train de dire? Et que dans votre sphère d'influence, vous avez de l'impact jusqu'à un certain niveau. Dieu vous bénit. Mais l'église est sauvée. Quand les gens vont voir cette église jusqu'à un certain niveau, ils vont nous respecter. Mais qui respecte l'église aujourd'hui? Personne. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien du tout. Et ils louent un Dieu dans leur bouche. Le temps de comprendre est arrivé. Le temps de saisir les choses, c'est maintenant. Est-ce que quelqu'un peut dire amen?
Amen.
Tu ne quitteras pas cette terre sans influencer ta génération.
Amen.
Mandela, là. On parle de Mandela. C'est pas parce que Mandela a trois têtes. Mandela est resté attaché à sa conviction. Tu sais, les valeurs sont importantes. Hein? Les blancs sont venus dire à Mandela, Mandela, laisse tout ça. Nous, on te nomme ministre. On te donne même si tu es vice-présidence. Et puis tu oublies tout ça, et puis on continue. Il dit, moi, j'ai une seule chose dans ma tête, la liberté de mon peuple. Apartheid doit finir. On dit, tu vas rester, il dit, il n'y a pas de problème, je suis prêt. 27 ans de sa vie, pour ce qu'il croit. Ça, c'est de la force de caractère. Quand il est sorti, il a fait 5 ans de pouvoir. À la fin de son mandat, les gens lui ont demandé pardon. On dit, Mandela, le peuple, tous les Africains t'aiment, les Blancs, tout le monde. On va te voter même, par acclamation, par élection. Reste au pouvoir. Mandela dit, il reste pas. Parce que il s'est battu. C'était pas pour prendre un pouvoir. C'était pour la liberté de son peuple. Ça, c'est des valeurs. Il a donné le pouvoir. Aujourd'hui, il a un nom. Si tu es dans une classe aujourd'hui, on appelle quelqu'un Kofi Mandela, tu vas tourner ta tête. Pourquoi? Parce que le mot Mandela qui est à côté là, ça a un sens. Alléluia. Tu vas tourner pour voir c'est qui. Parce que le nom va t'interpeller. Derrière le nom, il y a une œuvre. Mais si on dit ton nom là, qui? Les gens qui travaillent vont continuer, ne vont même pas lever la tête. Tu comprends? Mais il a fallu un homme pour donner force à ce nom. Je prie que tu n'entres pas au ciel sans amener ton nom là où ton père ne l'a pas envoyé. Dis amen encore.
Amen.
Dis amen plus fort.
Amen.
Là où ton père n'a pas envoyé ton nom là, quand ils vont dire ton nom, frère, tout le monde est obligé de reconnaître que ah. Et les gens oublient ton père. Ils oublient tout le monde. C'est toi seul qu'on prend comme référence dans la famille. À cause de toi et ce que tu as fait. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alléluia.
Amen.
Voilà pourquoi le temps est arrivé où l'église doit se réveiller. On n'est pas venu accompagner les gens. Dis amen encore.
Amen.
Le travail. La générosité, c'est une valeur qui manque aujourd'hui. Les gens sont de moins en moins généreux. On dit il y a construction du temple. Je prends des exemples pour que tu comprennes parce qu'on est ici. Il ne faut pas aller loin. Chaque mois, on participe pour la construction du temple. Donne-moi l'image de la construction du temple. Du temple. L'année dernière, on a investi près de 52 millions dans le temple. Les 52 millions, les gens nous ont aidés de l'extérieur. Les gens ont aidé. Je voulais vraiment dire merci à tous ceux qui nous aident tous les jours, qui envoient des Western Union, qui nous donnent leur appui. Que le Dieu d'Abraham vous bénisse. Nous sommes reconnaissants. Mais les frères même qui sont assis là, il y a des gens, je ne veux pas t'embarrasser. Même ce mois, le mois dernier, on dit, participez pour la construction du temple. On n'a même pas la moitié de l'église. La générosité manque de plus en plus dans nos églises. Les gens sont de moins en moins généreux. Quelque chose qui est pour Dieu. Quelque chose, un temple qui va donner gloire à Dieu. Ce n'est pas pour un homme. Ça là, c'est une révolution. Ici, quelques années. Et ça, il y a longtemps, on a dépassé ce niveau. On est à la toiture. On nous dit maintenant, pour couvrir le temple qui fait 3000 places assises, il faut 40 millions pour la toiture. 40 millions, c'est pas 40 francs. Et on doit couvrir le temple ici, les mois à venir. Je t'engage.
J'engage ta générosité. Dis amen. Aujourd'hui est le premier dimanche du mois, n'est-ce pas? C'est notre dimanche d'action de grâce, n'est-ce pas? Dimanche prochain, c'est quoi? Hein? Pour la construction. J'espère que tu es prêt déjà. Pour Paris. Ce que je te dis est important parce que vous savez, une équipe qui est ensemble, Dieu a dit des gens qui bâtissaient Babel. Il dit, de toute façon, ils sont un là. Moi, Dieu, je ne peux rien contre eux. Pour que je les arrête, il faut confondre leur langage. Donc, un peuple qui est uni, on ne peut rien contre ce peuple. Donc, la générosité est quelque chose d'important, comme valeur qui doit revenir au cœur de l'Église. Si l'Église veut retrouver sa position, je vous engage tous dimanche. Il ne faudrait pas que dans cette salle, quelqu'un ici, dimanche prochain, vienne me dire, je ne suis pas prêt. Tu dois mettre ça en priorité dans ta vie. Parce que nous avons des engagements vis-à-vis des fournisseurs. Et ces engagements, on ne va pas venir parler en langue pour dire, on dit, mon agent, on va t'envoyer au CHU pour dire tu es malade. On dit, le pasteur parle la langue. C'est un peu comme chez les, quand tu vas souvent dans certains pays, quand les gars, ils sont malhonnêtes, et quand ils t'ont doublé, et tu veux maintenant voir clair, son français disparaît, commence à parler, charge, tu comprends rien. Tu dis, mon frère, tu parlais français tout à l'heure, non? Il dit, ah, je suis quand? Parce que là, c'est chaud maintenant. Alléluia. La générosité doit revenir. Dis à ton frère, sois généreux pour le Seigneur. Troisième, l'humilité est une valeur importante qui est en train de disparaître. Les gens sont de moins en moins humbles. Tu vois, aujourd'hui, quelqu'un, il a juste une église de 50 membres. Dès qu'il atteint 100 membres, c'est bon. On ne peut plus l'attraper. Il a 4 gars de corps. Quand il vient, quand il a 16 cellulaires. Il y en a qui attrapent ses cellulaires. Rien ne sonne, mais il a ça. Tu sais, il faut que Dieu nous aide. Et ce que Dieu dit, Seigneur, pitié de moi. Non, il faut qu'on change. Quand tu vois des gars comme le T.L. Osborne qui est mort, pendant la fête de Saint-Valentin, avec des hommes comme Maurice Cerullo, des grands hommes de Dieu qui ont marqué l'histoire et qui continuent de marquer l'histoire, les Derek Prince, des gens qui ont été les piliers de la foi chrétienne, les Kenneth Hagin, il y en a en Afrique, des gens vraiment profonds, mais qui sont restés eux-mêmes. Nous n'avons pas le droit de ne pas rester nous-mêmes.
Amen.
Vous comprenez? Moi, j'ai dit aux gens, et retenez ça ici, j'ai dit, c'est vrai que Dieu, pour des raisons d'administration, a bien voulu que je sois établi évêque des églises Alliance publique missionnaire Côte d'Ivoire, mais ne m'appelez plus bishop, ça ne m'intéresse même pas. Appelez-moi Alexandre Amazou. Terminé. C'est bon. Le reste, là, c'est du folklore. Je veux plus de tout ce truc-là. Je te dis la vérité. Parce que c'est pas ça qui fait l'œuvre. Et puis, tu sais, quand tu es un homme de Dieu, il faut arriver à un point où il faut savoir contrôler le peuple, sinon le peuple va te contrôler.
Amen.
Le peuple, oh, ils sont dangereux. Ils ont dit, oh, sans toi, il n'y a pas de Dieu, il n'y a personne, tu es le Dieu Tout-Puissant. C'est comme ça pour te blaguer. Dès que tes pieds montent, Dieu te frappe, boum, tu tombes.
Amen.
Les enfants sont encore petits. Alléluia. Dis frère Alexandre, j'ai dit mon frère, comment ça va? Jésus-Christ est Seigneur. Ça ne me change pas. Alléluia. Donc je dis au communicateur, là, vous ne verrez plus jamais sur une seule de mes posters, bishop. J'ai dit, celui qui met ça, il a choix avec moi. Mettez Alexandre Amazou. Même pasteur, laissez tomber même. Mettez Alexandre Amazou. Terminé. Les gens me connaissent, ne vous inquiétez pas. Hein? Non, rien du tout. Je dis, T.L. Osborne là. Quand on dit T.L. Osborne, tout le monde sait qui il est. Laissez-moi tranquille. peux m'appeler, mais en fait, tu as ta liberté. Appelle-moi comme tu veux. Je veux que tu sois à l'aise. Mais dans tous les cas, moi, j'ai ma ligne. L'intégrité, aujourd'hui, manque. C'est une valeur importante qu'on trouve maintenant rarement, l'intégrité. De moins en moins de gens intègrent. Les gens qui exaltent l'intégrité, il n'y en a plus beaucoup. Aujourd'hui, les gens mettent la richesse au-dessus du caractère. C'est devenu un problème dans l'église. Tout le monde veut qu'on dise, tu vas prospérer, tu vas avoir l'argent demain. C'est qui est une vérité biblique qu'on ne peut pas enlever? Dieu nous veut prospérer, Dieu veut qu'on avance. Nous prêchons ces choses, c'est normal. Mais on ne peut pas exalter la prospérité au-dessus du caractère. Jamais. Le caractère est la priorité de Dieu.
Amen.
Je n'ai aucun respect pour quelqu'un qui manifeste l'onction sans le caractère. Je vous dis, et ayez les mêmes convictions. Quelqu'un peut manifester son onction jusqu'à même faire descendre les étoiles du ciel. S'il n'a pas de caractère, il ne faut même pas le considérer. Il ne faut même pas le saluer même. C'est quelle onction ça? Ce n'est pas l'onction qui est l'élément, le critère. Lisez dans la Bible, vous allez voir les critères de choix d'un leader. Il dit que chaque leader soit trouvé juste et intègre. La loyauté est l'élément fondamental dans l'affaire de Jésus-Christ au fait. Il n'y a pas un minimum de loyauté dans ta relation chrétien ou pasteur chrétien, c'est dangereux. On n'a plus rien, c'est qu'il n'y a plus d'espoir. Je vous dis ces choses-là, ça s'apprend. Et il faut le dire. Tu sais, l'honnêteté, c'est de reconnaître que voilà ce que Dieu veut, mais moi, je ne suis pas encore arrivé. Mais ce n'est pas de nier ce que Dieu veut. La foi en Dieu, c'est des valeurs qui, aujourd'hui, Satan veut enlever dans nos maisons. Nos enfants, la plupart de nos enfants ne sont même pas convertis. Combien de gens qui ont pris leurs enfants comme ça pour dire, viens donner ta vie à Jésus. Vous leur enseignez la Bible et vous priez avec eux, ils donnent leur vie à Jésus. Je vous ai dit, la foi n'est pas un héritage. On n'hérite pas de la foi de son père. Dieu a des fils, il n'a pas des petits-fils. Quand toi tu es fils de Dieu, ton enfant ne devient pas petit-fils de Dieu. Il faut qu'il donne sa vie à Jésus. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc si tu es enfant de Dieu, que ton enfant qui est sorti de toi n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ, il n'est pas converti, il n'est pas fils de Dieu. Il ne devient pas petit-fils parce que toi tu es pasteur. Voilà. Beaucoup d'enfants de pasteurs ne s'en sortent pas. Beaucoup d'enfants de chrétiens sont des dealers, sont des homosexuels. Pourquoi? Parce que on pense que nous sommes dedans, ça couvre nos enfants. Frère, il faut agir maintenant. Dis à quelqu'un, agis maintenant. Ça peut être trop tard, mais Dieu va te faire grâce. Si tu pries, Dieu va les rattraper sur le chemin. Dis amen, dis amen, dis amen, dis amen. Alléluia. Tu sais, il y a des choses qu'on ne savait pas. Peut-être ils ont grandi, ils sont allés loin, mais on peut rectifier le tir. La foi en Dieu. Aujourd'hui, tu parles de Dieu, les gens disent, ah bon, ça existe ce vieux truc-là? On dit la foi en Dieu, j'ai la foi en Dieu, les gens te regardent bizarrement. Et si tu parles de science occulte, ça gêne personne. Mais quand tu parles de Jésus-Christ, c'est Seigneur, ah, mais ces gens-là, ils sont encore dans ces vieilleries-là. Le respect des anciens et de l'éthique, c'est des valeurs qui sont en train de partir. Aujourd'hui, en Europe, les anciens, c'est bizarre même souvent. Et je m'appelle, j'étais dans le métro à Paris. Et j'ai vu une vieille femme venir. Je veux me lever. Tout le monde me regarde bizarre parce que je me lève pour la vieille femme. Parce que naturellement, tu vas voir des petits gens qui sont dans le métro en train de jouer aux jeux vidéo. Et un vieux est là, il s'en fout. C'est pas ça qui compte. Chacun se cherche. C'est de l'individualisme. Mais même ici en Afrique, ça commence à disparaître. Le respect des anciens. Tu ne sais pas honorer quelqu'un qui est plus âgé que toi, tu ne seras jamais âgé. Je vous dis, c'est pas parce qu'on est tous assis dans une même église que tu vois une maman, tu vas l'appeler ma soeur, comment ça va? Je te gifle. C'est ta maman. Respectez les mamans. Des mamans, comme maman Yuya, maman Hippo, des gens respectables. S'ils sont là, même si ce n'est pas une raison de dire, oui, comment ça va ma soeur, hein? Et puis tu fais sa main comme ça. C'est pas ton ami. Le respect des anciens. Les anciens, dans la foi, c'est important, frère. Ce que je vous dis, ok. On dit, c'est un pasteur vieillot. C'est ce genre de message-là. On n'en prêche plus, ça. Non, il n'y a pas de souci. La crainte de Dieu, c'est des valeurs également qui sont en train de disparaître. Pourquoi? De moins en moins, les gens ont la crainte de Dieu dans les églises. Ils s'en foutent. Quelqu'un peut être là, puis il vole, et puis il te regarde. Il vole en direct dans le sac de quelqu'un. C'est dans sa poche, et puis il est là, il suit le culte. Il dit Alléluia. Alléluia. Il n'a même pas peur que on ait, les anges sont là, le Seigneur va le taper. Et c'est fini. Les gens s'en foutent. Il y en a qui sont assis à l'église. Il est là, pasteur, tu peux manger comme. Dans la présence de Dieu. Il y en a qui viennent, ils ne se lavent même pas. Ils viennent s'asseoir. Tout ça, c'est la crainte de Dieu. Comment tu peux te lever chez toi? Tu ne te laves pas. On dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Tu viens t'asseoir, tu ne te laves pas. Et tu dis, je vais rencontrer. Tu peux aller rencontrer Ouattara, tu ne vas pas laver? C'est FRC qui va t'arrêter. Non! Vous ne pouvez pas faire ça à Dieu. Je dis, il n'est pas votre collègue. Il est Dieu. Et le respect que quelqu'un a pour quelque chose détermine jusqu'à où il considère la chose. C'est important que l'église soit rééduquée. Pourquoi? Rien les sectes là. Vous partez, vous voyez, Maïkari, le truc qu'ils ont mis sur le boulevard, tout le temps on en parle. C'est l'expression de leur foi. Quand tu vois le temple de Maïkari là, ils ont mis granito, les gens mettent dans leur salon. Eux disent, on va se foutre de vous. On va prendre ce que vous mettez dans votre salon pour mettre sur clôture. Ils ont mis granito là sur clôture. Ils ont rendu le coin très beau. Les voitures qui entrent là-bas, quand tu vois les voitures alignées, le calme, le propre, c'est tellement propre. Même devant là, ils ont arrangé jusqu'à même sur le boulevard Latry, ils ont planté fleurs pour dire aux gens, nous on est sérieux. C'est l'expression de leur foi. Ça là, ça convertit les gens. Il y a combien de gens qui disent sont chrétiens à Abidjan ici qui ont l'argent? Ils ont conçu quoi pour Dieu? Ils ont fait quoi pour Dieu? Tu peux voir ici pour dire ça là. C'est des chrétiens qui disent ils ont l'argent, ils veulent offrir à leur Dieu. Rien. Quand les chrétiens veulent faire quelque chose pour Dieu, ils cherchent ce qui est moins cher. Ils vont dans les rayons, on veut bâtir un truc, mais prenez tôle, pas à l'usine, prenez le métal, ivoire, les trucs là. Hein? C'est quand même la maison de Dieu. Prends les trucs moins chers. Pasteur, tu vas mettre encore tout ça? Non, c'est trop compliqué, laisse tomber, c'est Dieu. Pourquoi Dieu? On doit faire ça avec lui. Et dans vos maisons, vous êtes prêts à faire ça dans vos maisons? Je suis allé dans une église. Assemblée de Dieu, une église, grande église, bénie. Tu te vois les cadres assis. Monsieur le maire même de la commune était là. Il n'y a pas plafond. Il fait chaud. Tu ne fais même pas 10 minutes. Tu transpires comme si on avait l'eau sur toi. J'ai dit aux gens, vous êtes tous des mauvais types. Tu me connais, je ne les ai pas ratés. J'ai dit, mais ce que vous faites ici là, c'est ici vous venez reposer votre âme. Vous prenez le carburant de la semaine. Et vous faites ça à Dieu. Dans vos maisons, là, c'est comme ça, il fait chaud. Le pasteur dit, dis bien. Alléluia. Les hommes sont comme ça. Les hommes, c'est leurs intérêts personnels. Dieu. Mais il faut que quelqu'un change ce matin. Dis amen. Il faut que nos valeurs reviennent. Parce que ce qu'on n'a pas, on ne pourra pas donner à nos enfants. Si tu es un homme avare, la générosité n'est pas dans ton cœur, tu ne pourras pas apprendre à tes enfants à être généreux. Tu vas leur donner du pain, tu vas lui dire, tu sors quand vous jouez là. Mets-toi ici, mange vite avant d'aller au jeu, ok? Sinon, ils vont tout te prendre. C'est comme ça que tu es. Tes enfants, tu n'as pas la crainte de Dieu. Tes enfants m'ont dit, ils sont fatigués, ils ont envie de dormir dimanche matin. Tu vas leur dire, bon, allumez, mettez le Spiritus 16, là vous aurez bien froid. J'arrive, hein? Je vous retrouve après le culte. Parce que toi-même, tu n'as même pas la crainte de Dieu. Donc, ce qu'ils disent là, ça ne te gêne même pas. Ils vont dormir, c'est bon même pour eux. Parce que ce que tu n'as pas, tu ne peux pas transmettre. Je te dis, ce que tu n'as pas, tu ne peux pas donner. Voilà pourquoi vous êtes un produit important pour Dieu. Dieu veut investir en vous. Vous donnez des valeurs afin que, ayant des valeurs, vous ayez des repères dans la vie. Et ayant des repères, que ces repères-là vous donnent une force de caractère pour que vous soyez, dans cette génération d'hommes et de femmes perdus, des références, des signes pour votre génération. Et plusieurs vous verront comme un panneau indicateur. Et par vous, ils trouveront le chemin. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est bon? Aujourd'hui, il y a tellement de choses. J'ai pas envie de remuer le couteau dans la plaie. Les valeurs sont perdues. Combien de chrétiens aujourd'hui, tu es choqué par un divorce? Sincèrement. Il y a 10 ans, ok. Aujourd'hui, on n'est plus choqué. On a accepté. Quand les gens divorcent, bon, si tu veux divorcer, divorce, bon, c'est tout, la vie continue. On réfléchit même pas beaucoup. Parce que vous savez, Satan a une technique. Il te matraque avec quelque chose. Te matraque, ça devient normal. Tu t'accommodes, tu consens, tu tolères, tu acceptes. Et un jour, tu finis par faire. Donc aujourd'hui, on voit ça, on voit des pasteurs, des gens, on dit, bon, c'est eux-mêmes qui prêchent, ils font, bon, mais c'est même pas eux-mêmes. Le problème, tout le monde est frère. Même s'il est archbishop, il est frère d'abord avant d'être pasteur. Et la Bible, c'est pas pour les fidèles, c'est pour tout le monde. Archbishop jusqu'à pasteur. Donc il n'y a pas si lui-même qui est pasteur. Ça ne veut rien dire. Il peut être pasteur et puis s'est trompé. Tu n'as pas le te tromper aussi parce qu'il s'est trompé. Donc en fait, ce n'est pas une référence de dire eux-mêmes qui sont pasteurs et font. Ce n'est pas une référence. Amen. Tu as perdu ton salut pour rien. Et Satan a trouvé la technique parce qu'il a des moyens pour entrer dans nos maisons. Et ces moyens-là sont légitimes. Numéro 1, c'est la télévision. La télévision est devenue le moyen le plus utilisé par Satan pour infiltrer nos maisons et exposer nos enfants aux mauvaises valeurs. Et vous allez voir que la télévision est un éducateur important. Quand vous regardez l'humanité aujourd'hui, l'humanité est en train d'être façonnée par les médias. Tu prends un homme à Abidjan, un homme à Paris, un homme à Montréal, un homme quelque part à Bangalore, ils ont pratiquement les mêmes systèmes de pensée. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde globalisé. Et toutes les télévisions font les mêmes choses. Donc, et c'est par ces trucs-là que les gens transmettent. Un exemple, par exemple. Vous allez voir, il y a ces films, par exemple, des émissions de télévision avec des noms un peu bizarres, comme, exemple, j'ai copié quelques noms ici, on dit Le Beau Rebelle. Ça, c'est une émission, Le Beau Rebelle. Comment un rebelle peut être beau? C'est pour enlever, c'est-à-dire, le côté nocif de rebelle, là. Pour que tu finisses par dire, un rebelle peut être beau. Donc, même si je suis un rebelle, je peux être beau. Le beau rebelle. Le divorce parfait. Ça, c'est le titre d'une série. Le divorce parfait. Oui, la beauté du diable. Si, c'est pas faux. La beauté du diable. Il y a même un film, Dormir avec le diable. L'île de la tentation. Tout le monde connaît ça ici, non? Une île où on vous envoie pour vous tenter. Que Dieu sauve le monde. J'ai dit, tu es avec ta femme. On vient, on vous dit, venez, on va vous tenter avec d'autres hommes et d'autres femmes. Et vous partez pour vous faire tenter. J'ai vu cette émission sur France. Et puis sur beaucoup de choses. Et les Ivoiriens aiment ça. Ça dit, même les films brésiliens là. Quelle morale et quelle valeur ces films brésiliens que vous voyez entre midi et deux. Et la plupart des gens sont accro à ça, véhicule dans le fond. Parce que le vrai problème, c'est quoi? À force de vous donner ces choses, de vous matraquer avec ces choses, ils visent, c'est-à-dire une faille. Ils finissent par entrer dans votre système et à détruire vos valeurs au profit des valeurs qu'ils exaltent dans le film. Et ces valeurs-là, quand vous les acceptez, en réalité, ce qu'ils cherchent, c'est influencer votre caractère. Donc, les gens sont en train, doucement, de façonner la société. Par exemple, les films brésiliens, la plupart du temps, c'est des trucs d'amour. Lui, il est venu, il gifle l'autre, tu as pris mon mari. Pourquoi tu as pris? Je vais prendre le mari de l'autre, il gifle l'autre. Après, il est là, il est dans le mari de... Donc, c'est des trucs comme ça. Les séries de... comment on appelle ça il y a un autre encore là, les trucs télé-réalité avec les Kardashian, famille Kardashian, tous ces trucs là, ils font des trucs, lui là entre ici, il sort avec lui, après il laisse, on dit c'est mon artiste préféré, et puis il entre, il attrape l'autre, mais en réalité c'est quoi? C'est un style de vie, c'est des valeurs, derrière le film, c'est des valeurs qu'ils exaltent, c'est-à-dire la liberté de ne pas être coincé, si un homme te va plus, tu le lâches. Tu vas avec quelqu'un d'autre, tu es libre. Et à force de regarder ces choses, on finit par prendre les valeurs là. Et ça devient normal pour nous. Puisque
la personne qui est la star dans le film là, nous l'aimons. Nous aimons la star. Mais la star là, quelle valeur nous présente? Mais vous savez qu'en marketing, quand on veut vendre un produit, on associe une image au produit. Mais l'image qu'on associe au produit, c'est pas n'importe quelle image. On prend un gars comme Didier Drogba que tu aimes. On associe son image à Pepsi Cola. Et quand tu vois Didier Drogba prendre le Pepsi Cola, en fait, c'est ton amour que tu as pour Didier Drogba qui font un transfert sur Pepsi Cola pour que tu puisses aimer Pepsi Cola. Partout tu vois Pepsi Cola, c'est Didier Drogba, tu vois. Donc, à un moment donné, quand tu aimes une star, mais qu'elle n'a aucune, elle n'a pas de valeur, c'est quoi? C'est-à-dire qu'en l'aimant, tu acceptes ce qu'elle est. Vrai ou faux? C'est pas facile, hein? Nous sommes en danger. Ça, c'est la télévision. Bien sûr, il y a les stars avec leur style, leur mode. Et là, toutes ces modes-là, les gens viennent avec des danses de singes, danses de trucs, chaque période. Mais en réalité, c'est toutes ces choses à sortir de l'enfer. Tu vois, nos enfants qui sont là, ils sont là, ils comprennent. Nos petits-enfants souffrent. Et ils dansent sur la tête, ils sautent, ils font comme ça. Le petit, sa petite tête, il veut faire. Il regarde, il veut faire. Tu dis, hey, tu vas casser ta tête. Alléluia. C'est pas facile. Nos filles dans nos maisons, elles savent danser toutes les danses. Les petites filles là. Oh. C'est pas facile. Et ça, c'est bon, les artistes, les modèles. Regarde les modes que les gens créent. Les modes varient. Tu vas voir une mode, ça sort. On dit, ça, c'est en vogue à Paris et aux États-Unis. Mais quand tu vois le truc, ça ne ressemble à rien du tout. C'est un truc qui met toute ta nudité dehors. Mais les gens sont dedans. On dit, c'est la mode, c'est la nouvelle tendance. On porte comme ça. Pasteur, on porte comme ça. Le bras, là, c'est pas comme ça. Quand tu dis, mais oh, dis non. Et ça commence ici, ça vient comme ça, puis ça porte. C'est la tendance, pasteur. Dans tous les cas, chacun fait son choix. Ensuite, on a les jeux vidéo. Le danger des jeux vidéo, je vais vous expliquer. C'est que la plupart des démons sont sur les jeux vidéo. Les gens qui font les jeux vidéo, ce n'est pas des chrétiens, c'est des gens qui croient en d'autres choses. Maintenant, cuillère pâle, casserole pâle, même dans les dessins animés là, bois pâle. Donc en fait, les enfants aujourd'hui, c'est difficile pour nos enfants. C'est difficile, hein? Il est habitué à voir des bois pâlés, des arbres, des cuillères qui volent, des trucs qui volent. Donc, c'est-à-dire que déjà son esprit est préparé. Et dans les jeux vidéo, c'est des démons qui se battent, des trucs, des decks, des dragons. Et quand ils jouent ces choses-là, l'objectif c'est quoi? Ils mettent beaucoup de temps. Mais vous savez, le temps qu'un homme passe à faire quelque chose, l'influence. Et vous savez, les valeurs que les jeux vidéo exaltent, c'est le crime. La guerre, c'est des jeux de guerre. C'est sur ton adversaire. Donc, bam, je l'ai eu, et puis il est content. Je l'ai eu. Et puis, c'est l'esprit revanchard. Parce que si on t'a touché, le jeu vidéo te fait comprendre que il faut que tu fasses tout pour te venger. Donc l'enfant grandit sans que les parents s'en rendent compte. Il commence à avoir un esprit revanchard. On ne le marche pas sur son pied. Il va rentrer. Il a appris ça dans le jeu vidéo. Et nous sommes surpris. Le crime, la mort, des choses comme ça. C'est, en fait, la haine, le crime organisé. Dans les jeux vidéo, c'est tout ce qui... Il n'y a pas autre chose, hein. Mais en fait, l'enfant, il grandit avec... Il met beaucoup de temps dedans. Beaucoup de temps à tuer, à se battre et à avoir la victoire. Quand on l'a battu, il est fâché. Et donc, il veut se venger. C'est ce qu'il faut qu'il mette du temps. Parce que quand il perd, il est là. Je dois me venger. À un moment donné, il grandit, il a un esprit revanchard. C'est un gars qui ne tolère pas qu'on lui fasse quelque chose sans qu'il rentre. Et puis, un matin, il a appris à tirer dans les jeux vidéo. Il veut appliquer sur le terrain, c'est ce qu'on voit aux États-Unis avec les théories de Newton, de tout ce qui s'est passé dans les collèges. C'est ça. Un enfant vient comme ça, il dit non, il veut essayer ses armes. Il entre et puis il voit le chef bandit qui est dans le truc. Et puis il voit, il va s'amuser et tue les gens. Moi, j'ai dit Dieu m'a parlé.
dans tous les cas. Tous les jeux d'abord. Parce que qui sont pas des jeux de jeu. Les enfants, s'ils m'entendent, ils sont grillés comme des grillons. Tous leurs jeux sont déjà... Non, c'est fini. Je mets la main dessus, je jette dans la poubelle. Je vous dis. Oh. Ils mettent du temps, tu vois, ils sont dessus. Et puis, ils deviennent très intelligents. Leur esprit va vite. En un temps record, tu peux donner un téléphone portable à une petite fille comme ça, là. Elle va te décoder ça, elle va t'enlever. Puis tu dis, viens, il n'y a rien fait. Bon, c'est une façon de vous faire prendre conscience. Surveillez vos enfants. Et à force d'être influencé, ces choses-là bâtissent des valeurs en eux. Bâtissent des valeurs en eux, ça finit par forger leur caractère. Un enfant qui a été beaucoup dans les vidéos, là, il devient un enfant un peu violent. Il grandit, il est violent, fait des choses dures, il veut reproduire. Je me rappelle bien, j'étais à Paris une fois, j'ai un neveu qui aime beaucoup les jeux vidéo. Il a tellement aimé les jeux vidéo de japonais, là, qu'il est devenu comme même... Il ressemble à un personnage de jeux vidéo lui-même. Quand il se peigne comme ça. Alors, il fait comme ça, il fait comme ça, ça se croise ici, ça devient comme ça. Et puis il fait comme ça, il met des shampoings, ça devient long comme ça. Et puis son look même ressemble à l'un de ses favoris de combat dans le jeu vidéo là. Maintenant, un jour, il y a eu des histoires entre, je crois, je ne me rappelle plus, mais je crois que c'est un des enfants avec lui. Et il s'est fâché. Quand il s'est fâché, je suis arrivé dans le couloir, quand je l'ai vu, c'est le tour de jeu vidéo là, quoi ça fait. J'ai dit, c'est quoi toutes ces histoires? Il dit, laissez-moi. Donc, tu vois, dans le jeu vidéo, quand son favori veut gagner la bataille, il a des trucs qu'il fait. Et puis le feu sort. Donc, il a commencé à faire pour que le feu sort. Alléluia. Frère, c'est trop grave. Alléluia. Je l'ai regardé et j'ai dit à sa maman un jour, j'ai dit, faut prendre soin de ton fils. Il fait des collections d'images de son. Il a plein de trucs. Tout est. Il est grand, mais il est attaché à ça. Que Dieu nous sauve. Voilà pourquoi je voulais terminer en disant, nous avons besoin de modèles. Dis à ton frère, j'ai besoin de modèles. Si tu vois que les gens souffrent autant, c'est parce qu'il leur manque de modèles. Parce que là où il n'y a pas de modèles, tu piges les valeurs sur quoi, sur qui? Tes repères, c'est sur quoi, sur qui? Nous avons besoin de modèles. Et aujourd'hui, il y a peu de modèles. Il n'y a pas beaucoup. Pas beaucoup. Et si tu es là et que Dieu te donne ce fardeau, c'est un fardeau qui est grand. Et c'est un fardeau qui est noble. Nous devons continuer à prier Dieu pour ne pas être une source de déception pour plusieurs. Nous devons travailler. Nous devons nous battre. Je ne te dis pas d'être parfait, mais je te demande de craindre Dieu et de protéger les valeurs que tu sais que ce sont des valeurs contre vents et marées. Parce que Dieu n'a personne ici à Abidjan, partout au Canada, partout. Dieu n'a personne ici, c'est toi. Pour veiller sur ces valeurs-là pour lui. On aime trop nos enfants souvent et on les livre à Satan. Il faut te réveiller ce matin pour reprendre le contrôle sur ta maison, pour être intransigeant. Les gens vont te traiter de sectaire, de trop dur, tu es trop compliqué, trop dur. Laisse les enfants, c'est juste les enfants. Mais toi, tu sais de quoi tu parles. Tu sais de quoi tu parles. Que Dieu vous bénisse ce matin.
Amen.
Que sa grâce soit sur vous.
Amen.
Et qu'il fasse de vous des modèles, des repères pour cette génération. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce matin?
Vous avez été béni par ce message? Vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante: www.abmc.net. Email info@abmc.net. Téléphone 22 41 75 53. Que Dieu vous bénisse.